VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, 6 nouveaux décès en 2 jours dans la 10e épidémie d'Ebola en cours dans le pays, principalement dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu, frontalier du Rwanda et de l'Ouganda. Ce qui porte à 170 le nombre de décès sur 267 cas recensés, d'après un bulletin du ministère de la Santé dimanche. Au total, 267 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri, dont 232 confirmés et 35 probables. En République centrafricaine, Karim Mekasua, l'ex-président de l'Assemblée nationale, destitué vendredi, appelle au calme. Dans un discours prononcé dimanche dans le quartier du PK5 de Bangui, qui abrite la majorité des musulmans de la capitale, l'éminent parlementaire a qualifié sa destitution de coup de force contre la Constitution. Les détails avec Bagassi Koura.
Devant les habitants du PK5, poumon économique de la capitale et souvent théâtre de violence, Karim Mekasua a appelé dimanche au calme. Mekasua a dénoncé ceux qui ont voulu confessionnaliser le débat, en soulignant néanmoins que 38 des 41 députés qui avaient voté sa destitution étaient chrétiens. Il a indiqué que 2 procédures pour contester sa destitution étaient en cours au tribunal de grande instance et à la Cour constitutionnelle. Le combat continue, mais c'est un combat judiciaire, a-t-il déclaré. Vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale, Karim Mekasua, député musulman du PK5, avait été destitué par les députés centrafricains. Dans la foulée de sa destitution, des tirs épars avaient été entendus au PK5 de Bangui et dans les villes du centre et de l'est, Bambari et Bria.
Congo-Brazzaville, fin dimanche à Brazzaville, des assises de la presse congolaise qui a réuni du 25 au 28 octobre des journalistes et des professionnels et experts de la communication pour réfléchir sur l'avenir des médias dans le pays. La question du financement de la presse a été au centre des débats, nous dit Arsène Séverin, le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville.
Il s'agit de faire le point 26 ans après la tenue des premiers états généraux de la presse congolaise. Des médias de la débrouillardise et des journalistes vivant dans la précarité n'hésitent pas de commenter les consommateurs et même les professionnels de l'information eux-mêmes. C'est pourquoi Philippe Mouveau, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, a voulu que ces assises de la presse se tiennent.
L'arrivée des nouveaux médias, il va de soi que le système de diffusion, le système de fonctionnement, même administratif des médias, a totalement changé et commande aujourd'hui une nouvelle manière, un nouveau management des médias. Et c'est ce que nous voulons justement faire. Or, nous avons fait un constat sévère, mais vrai, qui dit notre réalité, nous ne l'avons pas caché. Notre système aujourd'hui est malade et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faille apporter très rapidement des remèdes.
La question du financement de la presse congolaise par les pouvoirs public a été fondamentalement abordé au cours de ces assises. André Barry, directeur de publication de Paris Africain, est hebdomadaire paraissant à Brazzaville.
La presse en général, et nous vivons dans la précarité. Et ces assises sont les bienvenues et nous pensons trouver la solution au sortir d'ici.
Il faut que l'État budgétise désormais l'aide à la presse, appelle Edouard Adzota, journaliste à la retraite, aujourd'hui responsable du syndicat de la communication.
Étant donné que les médias ont un rôle de sensibilisation, de formatage des consciences, je crois que l'État devrait prendre le relais en les aidant. C'est une obligation. Il ne faut pas voir que non, parce que c'est commercial ou c'est comme ça. Non, non, non. Justement, à travers des mécanismes. Il ne s'agit pas de jeter de l'argent, non. Il s'agit d'aider les médias qui répondent aux critères.
Malgré les critiques, Clotaire Yimbou de l'Association des éditeurs de presse reconnaît les avancées significatives réalisées par la presse congolaise.
En promettant un club de la presse libre qui a permis d'obtenir un centre de formation post-universitaire, ça c'est quelque chose d'important. Nous avons pu obtenir au niveau des associations la convention collective des journalistes du secteur privé.
Quoi qu'il en soit, la presse connaît encore de nombreux défis, notamment celui lié à la migration vers la numérisation. Idriss Bosoto est formateur en journalisme 2.0.
Au niveau des médias publics, c'est encore plus complexe parce que la migration en ligne suppose l'adoption de nouveaux métiers. Alors que nous savons que dans nos médias traditionnels, les nouveaux métiers ne sont pas encore intégrés et les nouveaux métiers ne sont pas encore adoptés.
Le ministre de la Communication et des médias, Thierry Mongala, a souhaité que les journalistes s'approprient très rapidement les recommandations issues de ces assises. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, les rues de Conakry, la capitale, sont en grande partie vides ce lundi en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition politique. Des jeunes ont brûlé des pneus très tôt dans la journée sur la route Le Prince, une importante artère qui traverse la capitale guinéenne. Mais ces feux ont été vite éteints par la pluie qui s'est abattue sur la ville, refroidissant par la même occasion les ardeurs des manifestants. L'opposition avait appelé à la tenue de cette journée ville morte pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Les opposants ont également l'intention d'organiser une marche et un meeting demain mardi à Conakry. La lutte contre les djihadistes au Sahel, les militants de Boko Haram ont lancé une importante attaque dans le nord-est du Nigeria contre une base militaire tuant un soldat. C'est ce qu'ont annoncé dimanche des responsables nigérians de la défense. Selon un communiqué des forces armées posté sur Twitter, avec le soutien d'hélicoptères, les forces régulières nigérianes ont forcé les terroristes de Boko Haram à battre en retraite. Un militaire a perdu la vie au cours de l'attaque et 4 ont été blessés, précise le communiqué. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, sera le candidat du FLNL, son parti, à la présidentielle prévue en avril 2019. L'information a été donnée hier soir par Jamel Ould Abbès, le patron du Front de Libération Nationale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire général du FLN a fait cette déclaration lors d'une cérémonie en l'honneur du nouveau chef du groupe parlementaire du parti, Mohamed Bouabdallah. Cette candidature est une revendication de tous les cadres militants du FLN sur l'ensemble du territoire national, a dit Ould Abbès, cité par l'agence APS. Le comité central, instance dirigeante du FLN, se réunira prochainement pour officialiser cette candidature, a déclaré à l'AFP le chef de cabinet de M. Ould Abbès, Nadi Boulegroun. Pressé depuis 6 mois par son camp de briguer un 5e mandat, le chef de l'État, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, AVC, dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, pas plus que son entourage. Chef de l'État depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, M. Bouteflika ne fait que de rares apparitions sur un fauteuil roulant et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé a fait l'objet de spéculations récurrentes. L'incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'État a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie, mais semble dans l'immédiat susciter moins d'opposition affichée qu'en 2014, notamment au sein du sérail politique et militaire.
Actualité aux États-Unis maintenant. Les Américains ont découvert dimanche l'identité des 11 fidèles abattus la veille dans une synagogue de Pittsburgh dans l'État de Pennsylvanie lors de la pire attaque antisémite jamais perpétrée dans le pays. Nous retrouvons Bagasikoura.
3 femmes et 8 hommes, quasiment tous âgés de plus de 60 ans, ont succombé sous les balles de Robert Bowers, un homme blanc de 46 ans qui a, selon son acte d'accusation, expliqué après son arrestation, je cite, « Je voulais juste tuer des juifs ». Drapeau en berne, veillée d'hommage à Pittsburgh et ailleurs, cérémonie œcuménique, la communauté juive des États-Unis, la plus importante en dehors d'Israël, a reçu le soutien de tout le pays, mais aussi du pape, de Berlin ou Paris. Armé de 3 pistolets Glock et d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, Robert Bowers a sémé la mort samedi dans la synagogue Tree of Life, en plein cœur du quartier juif de Pittsburgh, qui abritait plusieurs offices religieux en ce jour de Shabbat, le repos hebdomadaire juif. David et Cécile Rosenthal, des frères âgés de 54 et 59 ans, qui vivaient ensemble dans un centre pour adultes ayant des déficiences intellectuelles, sont tombés sous les balles de Robert Bowers. Les 9 autres victimes avaient plus de 65 ans. La plus âgée, Rose Malinger, une résidente du quartier, avait même 97 ans. Le médecin légiste qui procède à des autopsies dans le respect des lois civiles et religieuses espérait hier pouvoir rendre les premiers corps à leur famille dans la journée.
Et vous terminez. En Asie du Sud-Est, un Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui transportait 189 personnes s'est abîmé ce lundi matin au large des côtes de l'Indonésie. L'appareil a coulé en mer peu après son décollage de Jakarta, la capitale indonésienne. Pas de rescapés jusqu'à présent. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.